Bonjour tout le monde. Et vous écoutiez la musique d'introduction du jeu Star Trek Starfleet Academy, donc en 1996, composé par Ron Jones, donc qui est aussi surtout connu pour avoir composé la musique pour les trois premières saisons de Next Generation, et dont le fameux thème du Borg dans Best of Both Worlds. Donc, ça va peut-être vous rappeler de souvenir. D'ailleurs, le jeu Star Trek Starfleet Academy est disponible en vente sur Good Old Game, GOG.com. Si jamais ça donne un petit goût de nostalgie, n'hésitez pas. Donc, bonjour en ce 2 février 2017. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine dans l'univers de Star Trek. Et on va commencer de ce pas. Aujourd'hui, 2 février, est l'anniversaire de Brent Spiner. Brent Spiner, né le 2 février 1949, est principalement, évidemment, connu pour avoir joué le rôle du lieutenant-commandeur Data dans Star Trek Next Generation. Et aussi, les fans de science-fiction vont l'avoir connu dans Independence Day, dans le rôle du docteur Brakish Okun, donc l'espèce de scientifique fou avec les grands cheveux blancs, donc qui d'ailleurs est revenu dans la suite de Independence Day, Independence Day Resurgence. Tant que mon humble avis personnel, sa présence a vraiment remonté le film qui autrement était un petit peu drabe. Brent a aussi joué un rôle récurrent d'un un hillbilly dans la série Night Court, avec toujours des contraptions un peu étranges et des raisons encore plus étranges d'être en cours. Si vous avez Netflix, mais vous avez allez sur YouTube, cherchez Brent Spiner, Night Court. Ça vaut la peine, ça vous fait rire un peu. Autrement, ben écoute, Brent Spiner a aussi produit une web-série auto-parodique nommée Fresh Hell en 2011 et 2012, donc où il s'incarne lui-même après un événement catastrophique pour sa vie personnelle, où il devient une espèce de paria et... Il doit gérer ça. Donc, je vous recommande aussi d'aller voir ça. Si vous êtes des fans de Brent Spiner, vous ne serez pas déçus. Autre cela, ben écoute, en 1991, il a produit un album nommé Old Yellow Eyes is Back. Donc, les vieux yeux jaunes sont de retour. Une collection de chansons des standards des années 30 et 40. Probablement peut-être aller dans l'ambiance Dixon Hill de Star Trek Next Generation. Patrick Stewart, Jonathan Frakes, LeVar Burton et Michael Dorn ont prêté leur voix à cet album. Donc, on va essayer de retrouver ça et de faire entendre ça dans une année proche. Ça risque d'être intéressant. Outre cela, sur Twitter, on a pu voir des fans. On va recommencer du début. Cette semaine, Peter Capaldi a annoncé que ce serait sa dernière saison en tant que le Doctor, dans Doctor Who. Donc, suite à cela, plusieurs fans ont fait savoir à la BBC qu'ils aimeraient voir Marina Sirtis incarner le rôle du Docteur dans sa prochaine incarnation. Marina a répondu d'une manière enthousiaste à l'idée. Rappelons qu'elle est née à Londres, en Angleterre, donc elle se qualifie tout à fait pour incarner le rôle, surtout depuis qu'on sait que les Time Lords sont capables de changer de sexe lors de leur régénération. Donc, alors pourquoi pas? Plusieurs disent qu'il est temps qu'une femme incarne le rôle. Alors moi, je suis entièrement pour jouer un peu sur le jeu de mots c'est le 11e Docteur qui aimait le Fish Fingers and Custard. Alors, pourquoi pas les doigts de poisson et le chocolat? Est-ce qu'on sait tout? Ceux qui connaissent Marina, un peu comme Diana Troy, grande amatrice de chocolat, c'est par là que vous allez rejoindre son cœur. On va rester dans les nouvelles de Star Trek Next Generation. Jonathan Frakes, au cours d'une entrevue avec la Canadian Broadcasting Corporation, pour souligner l'ouverture du Star Trek Academy Experience à Calgary, révélé qu'il allait travailler en tant que réalisateur pour la série Orville, qui est produite par le créateur de Family Guy, Seth MacFarlane. Il s'agirait d'une parodie ou un spoof de Star Trek. La série est décrite sur IMDb en tant que dans 300 ans dans le futur, cette émission suit les aventures du Orville, un vaisseau qui n'est pas au top de sa forme, un vaisseau exploratoire de la flotte terrestre interstellaire, faisant face à des challenges cosmiques de l'intérieur et de l'extérieur. Cet équipage de ramassis d'exploreurs spatiaux iront hardiment là où aucun drame comédique n'est jamais allé. Donc, ça promet. Personnellement, au niveau de Seth MacFarlane, personnellement, je suis genre vraiment... j'aime son humour. C'est un humour qui est ça paraît pas, mais c'est un humour qui est recherché, dans le sens que beaucoup de ses blagues, qu'il faut connaître la source, ou le faut connaître le Il faut savoir d'où c'est que ça vient. Par exemple, si on prend dans le film Ted 2, donc il y a Michael Dorn et Patrick Warburton qui incarnent un couple homosexuel ensemble. Et tard dans le film, on les voit dans le Comic-Con de New York ensemble. Et ne voyons-nous pas que Michael Dorn est habillé en Mr. Worf, et que Patrick Warburton est déguisé en The Tick, donc la puce. Ceux qui connaissent la série, qui était une série live action et une série animée. Donc, c'était en effet, les deux ont incarné ces rôles-là. Et dans le film, jouent deux personnages autres qui portent ces costumes-là. J'étais le seul à rire dans toute la salle. C'était un peu bizarre, mais je sais que la blague était bonne parce qu'elle est justement, elle était recherchée. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir cette série. Écoutez, en plus de Orville, Frick s'est quand même occupé avec la série The Librarians, qui est présentement à sa troisième saison. Et Frick, présentement, est en train de pétitionner CBS pour réaliser quelques épisodes de Star Trek Discovery. Donc, ça, ce serait un ajout vraiment bienvenu parce qu'on sait que Frakes, quand même, est un très bon réalisateur. En fait, ses débuts en tant que réalisateur dans la série Star Trek Next Generation et son magnum opus au niveau cinématographique va rester aux yeux de beaucoup de fans de Star Trek, Star Trek First Contact. Donc, ça ouvrait peut-être aussi la porte à revoir Robert Duncan McNeil, le lieutenant Tom Paris, et Roxanne Dawson, Belana Torres, aussi derrière la caméra, parce qu'eux aussi ont commencé leur carrière de réalisateur dans Star Trek. Outre cela, un conte parodique de Gould Ducat en tant que 45e président de la Fédération des planètes unies. Sur Twitter, si vous allez sur @RealRealDucat, vous allez pouvoir voir une parodie de Donald Trump à saveur Star Trek. En effet, ce compte est rempli de messages imitant le compte Twitter du président américain. Avec des citations telles que « Nous allons rapporter nos réplicateurs, nous allons ramener la zone neutre et nous allons ramener notre latinium et nous allons ramener nos rêves. » Ou encore, on peut lire « Bajor a pris trop avantage de la Fédération, c'est assez. Des gros déficits d'échange et le peu d'aide et leurs faibles frontières, il faut que ça change maintenant. » Donc, on peut faire les liens assez aisément, surtout pour ceux qui sont à l'aise au niveau politique américaine. Donc, derrière ce compte se trouve John Sondo, qui est lui l'auteur de plusieurs autres comptes parodiques, mais principalement Riker Googling, Picard Tips, et Worf Emails. Donc, je vous recommande d'aller voir ça. Si vous êtes sur Twitter, ça rajoute toujours un petit peu d'humour dans votre fil d'actualité. Et ça fait sourire de voir Riker voir les recherches Google que Riker pourrait faire sur l'ordinateur de l'Enterprise. Alors, peut-être avez-vous entendu ce thème musical au cours des dernières semaines sur Internet? Il s'agit d'une composition nommée « The Final Frontier » par Charles-Henri Avelange, un compositeur d'origine française. Donc, certains croient qu'il s'agit du thème pour Star Trek Discovery. Mais malheureusement, il s'agit en fait d'une présentation pour signifier son intérêt pour composer la musique pour la série. Si vous écoutez attentivement, je crois, moi, personnellement, j'ai pu reconnaître des thèmes qui me font surtout penser un petit peu Galaxy Quest, le fameux film de Tim Allen des années 90. Pour expliquer un peu, Charles-Henri n'a pas pu, probablement pour des raisons légales, utiliser des thèmes musicaux reliés à Star Trek. Donc, il s'agit en fait d'une composition entièrement originale. Et et surtout quand on pense au fait qu'il n'a pas pu se baser sur aucune image ou aucune... n'avait aucune idée de ce que sur quoi Discovery va porter. Donc, c'est vraiment un thème musical pour Star Trek en général, sans aucune note, qu'on a pu entendre dans les trames sonores précédentes. Donc, personnellement, c'est toujours mieux que Fate of the Heart d'Enterprise, et on va souhaiter que la production ait la bienveillance de soit d'engager M. Avelange comme compositeur musical, ou du moins ne pas prendre une chanson pop comme thème musical pour la série. D'ailleurs, je tiens à souligner que le fanzine du Star Trek French Club a fait une interview avec M. Avelange et elle sera disponible sous peu. Alors, je vous invite à prendre plus d'informations sur le site du Star Trek French Club pour pouvoir avoir accès à cette entrevue exclusive. Donc, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. On va partir en musique et on va revenir avec Pierre Courtemanche qui va nous suggérer quelques animés pour satisfaire les fans de Star Trek.
If while you're out in space, love, you're horny as a tard, take a tip from a security chief, love, that fat's Latasha Yar. She discovered the pleasures of Data. He became her sexual pet, 'cause he's fully functional and anatomically correct. He's fully functional and anatomically correct. His Defiant, with its thrusters, will explode in your wormhole, and he'll rub his trusty Spangler wrench on your warp core manifold. His multiphasic torpedo will penetrate your rift and cause a quantum singularity in your transwarp conduit. So if you're a filthy horda, Data's your bestest bet, 'cause he's fully functional and anatomically correct. He's fully functional and anatomically correct. He gently massages your gel packs while he replicates some lube. Then he thrusts his throbbing razor beast into your Jeffrey's tube. So lower your shields, spread your nacelles to make room for his craft, as he docks his
Delta flyer in your big fat juicy aft. So if you're a filthy horda, Data's your bestest bet, 'cause he's fully functional and anatomically correct. He's fully functional and anatomically correct. His pelvis a tireless engine, he shakes it when he struts. He's full of dilithium crystals in his bolts and in his nuts. He too likes to be pleasured, he'll put you on your knees. And if you're into disgrace, he will cover your face with his android antifreeze. If you're a filthy horda, Data's your bestest bet, 'cause he's fully functional and anatomically correct. He's fully functional and anatomically correct. He's fully functional and ribbed for your pleasure. And anatomically correct.
Nous voici de retour sur les ondes de puissance maximale et ce que vous venez d'entendre, c'était le Sexy Data Tango par Voltaire, donc une chanson d'occasion considérant l'anniversaire de Brent Spiner. Donc, nous sommes de retour en compagnie de Pierre Courtemanche. Bonjour Pierre.
Bonjour mon JP.
Pierre, aujourd'hui, tu viens nous faire des suggestions d'animés pour fans de Star Trek.
Oui, en fait, on aime tous la science-fiction, mais y a ce que le monde ne savent pas nécessairement, c'est que, d'un, moi j'adore l'animation, et mm-hmm. en particulier, du monde qui sont très bons en animation, c'est les Japonais.
Oui.
Les Japonais, eux autres, ils ont commencé à utiliser l'animation, des dessins, au lieu des effets spéciaux depuis très longtemps parce que c'était plus facile de laisser aller leur imagination. Ça a commencé il y a des années 60 avec Astro le petit robot.
Ouais.
Et après ça, il y a eu Captain Harlock, qu'on connaît beaucoup mieux comme Albator.
Ouais.
D'autres grands succès comme Goldorak, qui a inventé le genre des gros robots. Genre qui a inspiré des réalisateurs comme Guillermo del Toro pour créer Pacific Rim, James Cameron pour créer les combats de mecha dans Avatar, ou les frères Wachowski pour les combats dans des films comme La Matrice, surtout le troisième là.
Ouais.
Et bref, il y a beaucoup de films d'animation qui a été fait même en Amérique du Nord sur certains choses connues comme, je sais pas moi, Van Helsing, il en avait fait un
ouais.
Il avait fait une Matrice en dessin animé aussi, il avait fait une série de dessins animés de plein de choses. J'ai fait une série de dessins animés de Starship Trooper,
ouais.
Un film que j'adore. Bref, ils en ont fait beaucoup. Et on pense aussi à un film qui s'en vient très bientôt avec la célèbre Scarlett Johansson qui joue Black Widow dans les films d'Avenger.
Mm-hmm.
Elle va avoir le rôle principal d'un film qui s'appelle Ghost in a Shell, qui est basé sur un dessin animé japonais extrêmement populaire. Donc, c'est du gros sci-fi, ça. Alors, j'espère que tu vas me laisser faire cette chronique à chaque mois, mon cher JP.
Écoute, moi, je te fais confiance, Pierre.
Merci. Parce que je vais essayer de trouver des tricky, des séries que les tricky vont aimer. Puis d'autres pour faire évoluer les horizons des gens qui nous écoutent.
Alors, les fans de Star Trek, on a l'horizon ouvert.
Oui.
Pas comme les fans de Star Wars. pas comme certains fans de Star Wars qu'on connaît.
Fait qu'à la question qui brûle tes lèvres, mon JP, les dessins animés.
Parce que mes lèvres ils font mal.
Oui. Fait que donc, les dessins animés, c'est pas juste pour les enfants. Donc, comme j'ai mentionné, il y a beaucoup d'exemples de dessins animés très hardcore. Puis pas juste des Japonais, comme j'ai dit. Là, je parle pas de hentai. Hmm?
Non, hein? ça c'est pour le After Dark avec Mistress Janeway.
Oui, c'est ça. Alors donc, dans les dessins animés, on est capable aussi de faire des univers complexes, avancés, intelligents, puis même avec un médium dessiné. La grosse question qu'on se pose, quel animé qui pourrait être le plus Star Trek? Moi, immédiatement, je pense à Legend of the Galactic Hero. Ça, c'est une histoire c'est une histoire vraiment épique, une guerre galactique au niveau, Deep Space Nine-like. Là, okay?
Okay,
c'est gigantesque. Là. C'est toute la galaxie qui est en guerre. On voit toujours les deux côtés, les deux points de vue des deux... les points de vue de chacun des deux côtés. Tout est très bien expliqué. Beaucoup de character development. Écoute, gars, 15 romans. Une série de TV de 110 épisodes. 3 séries de manga, qui sont les BD japonaises. Donc, total de 16 tomes. Une deuxième série de 52 épisodes. 3 films. Puis une autre série qui s'en vient cette année.
Bon, écoute...
Ça, c'est probablement le truc le plus... qui se rapproche le plus à Star Trek que je pourrais mentionner. Puis imagine, il n'y a même pas d'extraterrestres là-dedans. C'est des humains. Okay? C'est vraiment fort. Je pourrais en nommer d'autres. Martian Successor Nadesico, une série où on suit l'équipage d'un vaisseau spatial avec beaucoup de Bridge Officers. C'est très, très proche des Bridge Officers. En fait, là-dedans, c'est beaucoup de filles quand c'est des Bridge Officers, étrangement, qu'on les surnomme souvent les Bridge Bunny. Mais bon. J'aimerais mentionner Irresponsable Captain Taylor. Qui pousse encore plus loin le style équipage de Misfits, là, puis c'est tout simplement hilarant. Là. Je veux dire, regarde, c'est aussi drôle que dans une galaxie près de chez vous. Là. Ça te donne une idée. Là.
Okay,
mais, ouais. Mais le vaisseau il est plus gros, plus de monde. C'est très, 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 très drôle. Aussi Super Dimensional Fortress Macross, aussi connu pour certaines personnes qui écoutaient les dessins animés en anglais comme Robotech.
Ouais.
Alors donc, c'est dans le même style aussi, avec genre le monde sont à l'intérieur du vaisseau, puis on suit les événements, mais avec des chasseurs qui se transforment en robots.
Bon, OK.
Puis le flagship aussi se transforme en robot super gigantesque. Là. C'est concept. On peut tomber aussi dans une verre un peu plus Star Warsien avec un Outlaw Star ou Cowboy Bebop. Là. C'est des séries où est-ce que genre c'est un petit équipage dans un petit vaisseau puis leur arrive des choses.
Firefly aussi.
Oui, très Firefly, très très Firefly-like. Là. Okay. Ça va être plusieurs animés que je risque de vous parler dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, on va vraiment sortir des sentiers battus, puis on va parler de Bubblegum Crisis.
OK. J'ai entendu le nom, mais pas plus. Donc,
OK. Bubblegum Crisis, premièrement, c'est une série qui, cette semaine, fête son 30e anniversaire.
Oh, quand même!
Oui. C'est sorti en février 1987.
En manga, j'imagine, en premier?
En dessin animé japonais.
Ah,
c'est une série qui, à l'origine, est sortie en dessin animé. Il y a eu des mangas par après.
OK.
Fait que donc, c'est une série c'est une série de 8 épisodes qui a été créée par la compagnie Umex.
OK.
Puis, ça, c'est la série de base, là, 8 épisodes, dans le style qu'on appelle des OAV, c'est-à-dire c'est donc des épisodes de plus que 30 minutes, mais qui n'étaient pas faites pour être diffusées à la télévision, plus faites pour être en vidéo ou dans un format plus mobile. Donc.
Les Japonais ont toujours été un peu à l'avance là-dessus, faut le dire.
Oui, c'est ça. Elle a engendré ensuite une suite de 3 épisodes qui s'appelle Bubblegum Crash, 2 séries de spin-off qui sont nommées Elite Police Files et Parasite Doll, aussi de 3 épisodes chaque. Un reboot en série TV de 26 épisodes qui s'appelle Bubblegum Crisis Tokyo 2040. Puis cette série-là, 2040, a elle-même eu spin-off, qui se nomme elle aussi Elite Police, mais elle c'est Elite Police to Protect and Serve.
Okay.
Puis un jeu de rôle fait par Tales Around Games.
Fait que je peux comprendre qu'il y a des madames dans cette série-là.
Oui. Oui, absolument. Mais tu peux comprendre aussi que la série fut très populaire pour avoir autant de sous-événements. Là, on a aussi ici la participation de Kenichi Sonoda au design des personnages. C'est un artiste que j'aime vraiment beaucoup parce que lui, il a un talent de dessiner des filles badass tout en étant très belle. Bon. Alors donc, comme tu dis, effectivement, il y a des filles là-dedans. Alors donc, Bubblegum Crisis, c'est une série qui crie les années 80. Là. Vraiment, là, surtout par son style musical très pop de l'époque. Parce que la trame sonore est très pop de l'époque, là, très, très années 80. Mais aussi par son style visuel très inspiré des œuvres occidentales. Ça fait un excellent premier animé à écouter. Là, on n'est pas trop dépaysé, on regarde ça. Okay. Puis on a l'air de regarder un film des années 80. On se retrouve. Là.
Il y a des permanentes,
Oui, énormément. Le style visuel est très, très, très années 80. Mais c'est du cyberpunk.
OK. Ouais.
Fait que donc, l'histoire se passe en 2032, dans le futur, évidemment, où on suit quatre femmes, une chanteuse rock, une policière qui est doublée d'une hacker aussi, une institutrice en Nairobi, qui n'est pas capable de garder sa job. Très, très drôle. Puis, une riche femme d'affaires. Puis, ça, c'est évidemment, c'est day job. Leur night job, c'est qu'ils sont les mercenaires, les Night Saber, qui utilisent des hard suits, des armures exosquelettes, un peu à la Iron Man. Puis, elles se battent principalement contre des boomers, des robots de combat, qui sont clairement inspirés des Terminators. Là. Qui appartiennent à Genome, une méga corporation qui sert d'antagoniste pour toutes les séries. Là. C'est tout le temps eux autres les bad guys. Là. Fait qu'il y a des intrigues là-dedans, des combats épiques, du character building, puis des situations farfelues. Parce que, non, écoute, il y a de l'humour là-dedans. Là. T'as toujours un beau petit clin d'œil. Il y a des situations vraiment intenses, là, aux émotions vraiment profondes aussi. Avec, en canevas, la ville futuriste, avec parfois des tons sombres à la Blade Runner ou Johnny Mnemonic. Puis d'autres fois, une vision plus ou moins espoir, tu sais. On voit du bon dans le mauvais, puis etc. Écoute, gars, moi, je trouve que c'est vraiment une excellente série. Là, évidemment, vous allez vous demander qu'est-ce qu'un fan de Star Trek va aimer là-dedans.
C'est exactement ce que j'allais poser, Pierre.
Oui. Ben, écoute, je vais dire, premièrement, la série va surtout plaire aux fans de DS9 puis de Enterprise à cause de leur côté très sombre, puis des relations interpersonnelles très complexes. Là. C'est avancé comme situation. On voit... c'est pas toujours des situations cute. Il y en a, il y a beaucoup de situations cute, mais il y a aussi beaucoup de relations interpersonnelles vraiment intenses. Surtout la série Bubblegum Crisis 2040, les situations sont vraiment intenses et vraiment faites pour un produit plus... C'est déjà quelque chose de très mature comme série. Peu importe l'original ou les spin-offs et la série secondaire. Il y a de la profondeur. Il y a vraiment beaucoup de profondeur dans les personnages. Puis on va au fond des personnages. Okay. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Il y a certains épisodes qui traitent de coups psychologiques graves, alors que d'autres épisodes sont plus basés sur l'humour. Puis finalement, il y a les combats de robots puis de mecha qui sont très présents puis sont extrêmement bien faits. Là. T'sais, des fois, le monde se dit « Oh, les années 80, c'était pas très, très beau, technologie. » Non, non, la technologie visuelle est vraiment très belle. C'est très léché, c'est très, très beau. Fait que moi, je vais vous dire, gâtez-vous. Essayez le premier épisode, puis vous allez probablement découvrir un médium que vous n'avez jamais pensé que vous aimeriez.
Bon, ben écoute, je vais mettre ça sur la liste. Écoute, on se reparle bientôt, Pierre. T'es toujours, comme je disais, t'es toujours le bienvenu, même si c'est pas pour parler d'animé. Même...
on va se voir à peu près aux deux semaines, puis cette chronique-là probablement au mois, je dirais.
C'est un bon deal, ça.
Oui, ça me va bien, ça. Donc, à la prochaine, mon cher JP.
À la prochaine, et merci beaucoup.
Avec plaisir, bye.
Bye. Got a girl. Et nous sommes de retour sur Puissance Maximale. C'est Jean-Philippe derrière le micro. Alors, pour ceux qui probablement dormaient sous une roche cette semaine, CBS a enfin révélé quelques petites images au cours d'un petit teaser sur montrant les débuts de la production de la série. Donc, comme on avait annoncé la semaine dernière, la série a commencé sa production le 25 janvier. C'est-tu le 25? C'était le... Ouais, je pense le 24 janvier dernier. Désolé. Donc, et ils ont se sont empressés de nous partager. Mais en fait, ça a commencé le matin. On a pu voir un nouveau logo se présenter. Donc, derrière ce nouveau logo, en fait, on a pu voir le fameux Delta, la forme en pointe qui est vraiment reliée à Star Trek. Dans la première version, elle était séparée aux deux tiers. Il y avait un bon espace de vide entre les deux. Et en fait, maintenant, ce qu'on a pu voir le matin du mardi dernier, c'est qu'au lieu d'avoir un espace qui sépare, en fait, les deux pièces sont une par-dessus l'autre. Donc, ça laissait... Est-ce que cet espace cette jonction va être... est-ce que c'est un indice par rapport à un élément de l'histoire? C'est difficile à dire, mais en tout cas, personnellement, je préfère ce logo. Il est vraiment plus dans le style classique. Donc, plus tard, au cours de l'après-midi, on a pu voir CBS qui a lancé un petit trailer d'à peu près quoi, 30-45 secondes. Donc, au début de ce... Si on y va vraiment étape par étape, donc ça commence avec Gene Roddenberry derrière sa machine à écrire qui dit Star Trek Is, donc sa fameuse présentation au studio de son projet de Star Trek. Et on y voit avec une série d'images derrière la caméra, donc nous montrant des Spock qui se fait poser ses oreilles. On voit George Takei, William Shatner. Ensuite, on passe à Next Generation, Encountered Four Point. On voit Gene Roddenberry avec Data et Guinan. On voit Dax et O'Brien. Donc, c'est vraiment toutes des images d'arrière-scène. Je crois, personnellement, le message qui passe avec ce segment-là du vidéo, c'est simplement de dire... On ne vous a pas oublié. C'est pour dire, oui, ça se passe dans ce même univers. On va honorer ce qui s'est passé auparavant ou dans le futur, peu importe, mais en fait, ce qui s'est passé dans l'univers de Star Trek que vous connaissez, avec lequel vous êtes familier. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment pour passer ce message-là. Donc, on voit... Continue, on avance, on voit justement le make-up dans l'épisode Genesis de Next Generation, où est-ce qu'on voit Barclay en araignée, on voit un Borg. Donc, et on finit avec une image du trio Kirk, Spock et McCoy. Donc, et on commence ensuite, on voit les décors qui se font construire. Donc, ça, c'est dans les studios à Toronto. Donc, ça a probablement été filmé au cours des dernières semaines ou peut-être même les derniers mois. Je n'ai pas d'idée à quel point ça prend du temps pour construire ces décors qui sont quand même assez gigantesques, je dois l'avouer. On voit, c'est assez refermé parce qu'en fait, ça commence ouvert, mais on voit ça il y a des murs qui se posent. À l'intérieur, on a des espèces de passages avec des escaliers. Je pense qu'on le revoit un peu plus loin. Ça n'a pas l'air vraiment fédération, mais c'est dur. Honnêtement, c'est très difficile à dire. C'est vraiment, vu que c'est de l'extérieur, tout ce qu'on voit, c'est vraiment du bois. Le studio, il n'y a pas beaucoup de détails dans cette séquence d'images-là. mais ça montre que quelque chose. Donc, par la suite, on voit une image, on voit le clap. Donc, on voit Star Trek Discovery, janvier 2017. Et dans le petit coin droit, on voit une jolie feuille d'érable, donc production canadienne. donc, évidemment, l'image derrière est quand même assez floue, mais on peut voir ce qui ressemble à une passerelle, ou du moins à savoir si c'est fédéré ou pas. C'est difficile à dire. On voit VFX en vert sur le clapper, donc ça veut dire que c'est probablement une scène qui est filmée pour des effets spéciaux. Donc, peut-être l'éclairage sombre indique que c'est peut-être pendant une alerte ou... En tout cas, c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est mon... c'est ma petite analyse. On voit bon la une chaise Star Trek Discovery avec l'ancien logo, avec le fameux split dans le Delta. On voit ce que le Delta était plus large aussi. On voit des costumes très pointus, des espèces d'armures. Ça a l'air presque biologique un peu. Il y en a qui disent que ce serait Klingon. Je suis pas certain si c'est possible, mais en même temps, Klingon, ça a toujours été plus du métal, vraiment, ou tu sais, une espèce de plaquette de métal ou de la chainmail, de la cotte de maille au niveau des costumes. Donc, moi, personnellement, je dis vraiment plus ça, vraiment plus l'air d'extraterrestre. En tout cas, on verra si c'est vraiment des extraterrestres ou si c'est une armure. C'est à revoir. Bon, par la suite, là, c'est là que le bas commence à blesser. On voit le USS Discovery. Donc, certains remarqueront qu'en effet, le design sur ces images-là n'a pas changé depuis le trailer. L'autre teaser, c'est qu'on voit le vaisseau quitter l'astéroïde. Cependant, je tiens de source sûre que que le design du vaisseau a changé depuis et ne ressemble pas à ce qui est présentement montré. Donc, ils vont probablement réserver la révélation du vaisseau pour un autre teaser trailer afin de rassurer les gens qui... sans cesse, qui n'arrête pas de clamer que le vaisseau est laid et qu'il ne respecte pas l'ordre établi et tout, et tout, et tout. Personnellement, j'ai pas autant de... C'est sûr, le vaisseau n'est pas parfait, mais en même temps, il est pas... c'est pas l'horreur que la majorité des gens veulent le faire croire, en tout cas pour moi personnellement. Pour en venir au sujet... Donc, je peux vous garantir, ce n'est pas le design final du Discovery. Il va changer et on aura une belle surprise dans, j'espère, quelques semaines lorsqu'on va pouvoir voir le résultat final. Parlant du vaisseau, on va venir au vaisseau un petit peu plus tard. On voit ici, par la suite, on voit... Quelqu'un portait un casque avec une lumière à l'intérieur. Ce serait peut-être un casque qui va avec les armures qu'on a vues auparavant. Sur le casque, on voit des crêtes qui vont jusqu'en arrière de la tête. Est-ce que c'est une espèce de casque de Klingon? Est-ce que c'est un casque spatial? Ou est-ce que c'est un casque pour capturer les... expressions faciales d'un acteur. C'est difficile. Honnêtement, je trouve que c'est difficile à dire à ce point-là. Est-ce que c'est Doc Jones qui est dans le casque? Encore là, très difficile à dire. Parce qu'on voit comme le derrière d'une tête et un coin d'oreille. Mais si on regarde attentivement, on pourrait croire qu'il s'agit de Doc Jones. Donc, c'est à voir. Et là, on voit un bout d'uniforme. Donc, on voit un uniforme bleu avec des coutures, du piping, qu'on appelle en anglais doré. Et on voit la fameuse, le logo, l'épinglette, le badge. si on remarque, en fait, avec le trailer, je crois que c'était le trailer brésilien, qu'on n'avait pas de texte par-dessus le badge. Donc ici, moi, j'ai pu voir, j'ai une image claire. Et on peut voir donc le badge qui, en effet, est vraiment le badge splitté avec les deux moitiés, une par-dessus l'autre. Et il a le logo de la section d'ingénierie. Donc, l'espèce de petit cercle qui se referme sur lui-même. Pareil comme dans la série originale. Donc, on voit ici qu'ils se tiennent, ils se tiennent quand même à l'ordre établi de les badges ont un logo identifiant le département auquel l'officier appartient. On voit aussi dans le coin inférieur gauche une espèce de petite pin qui ressort. Est-ce que c'est une indication de grade? Dans le sens que cet uniforme-là, vu qu'il y a juste une pipe, serait juste un enseigne. C'est difficile à dire. En fait, on sait même pas. On sait pas encore si cet uniforme-là, c'est vraiment un uniforme d'officier. Ou c'est peut-être l'uniforme qu'ils portent quand ils vont en exploration sur une planète. Un peu comme on a pu voir dans Star Trek Beyond avec le jacket de Kirk. Ou encore, si on se rappelle, dans Star Trek The Cage, ils avaient une espèce de jacket bleu qu'ils avaient par-dessus leur uniforme. Le bleu de l'uniforme fait vraiment penser à Star Trek Enterprise. Les coutures aussi un peu. Personnellement, avec l'espèce de gros col, je serais surpris que ce soit un uniforme de tous les jours dans le vaisseau. Parce que, honnêtement, je le trouve très encombrant. On verra. Mais il y en a plusieurs qui pensent que ce serait peut-être un uniforme d'apparat. Donc, il y a encore beaucoup à découvrir et analyser à ce niveau-là. Donc, mais honnêtement, je trouve qu'il est quand même très classe. Il ferait très beau comme uniforme d'apparat. Moi, je suis d'accord là-dessus. Quelque chose qui me donne un peu la puce à l'oreille, c'est qu'on voit que, justement, c'est une section d'ingénierie, mais les bordures sont dorées. Donc, est-ce que, justement, ça, c'est peut-être ce qui indique que ce serait un uniforme d'apparat, parce qu'à un moment, on se rappelle que ingénierie, ça devrait être plutôt dans les teintes de rouge. Ou c'est vraiment juste qu'ils ont mis une pin pour le bien des vidéos sur le premier jacket qu'ils ont vu, pour juste nous confondre, on ne sait pas. Par la suite, on voit une main ajouter quelques touches de peinture sur ce qui semble être une console. Et si on porte attentivement, attention particulière, dans le bas gauche, on voit des boutons physiques. Donc, ils vont quand même faire honneur à la série originale dans le sens que ce ne sera pas toutes des touchpads comme on voit de nos jours, mais vraiment, ils vont garder un peu comme dans Star Trek Enterprise aussi, il y avait des boutons physiques. On voit, donc c'est nécessairement un vaisseau humain parce qu'on a un gros chiffre 12 sur l'écran d'à côté, juste au-dessus de la main. On ne peut pas vraiment voir Station, je pense que c'est peut-être Station 12, donc station numéro 12. J'ai l'impression qu'ils vont quand même garder le style bouton physique pour quand même garder hommage à la série originale. Et là, on tombe dans ce qui est vraiment intéressant. Donc, on a un vaisseau en... ce qu'on appelle en anglais un wireframe. Donc, sur l'écran, on voit un vaisseau qui ressemble un peu à un Akira Class avec des nacelles très angulaires. La soucoupe fait vraiment penser à un vaisseau de classe NX, comme dans Star Trek Enterprise. On voit le... En fait, il y en a qui disent qu'il a l'air trop futuriste. Personnellement, c'est difficile à dire sans voir la texture sur le vaisseau. Ma théorie personnelle étant que ce serait le vaisseau de du capitaine Hanbo, le USS Shenzhou, donc Michel Yeo. Ce serait, personnellement, c'est ma théorie. Pour ce qui est du design du vaisseau lui-même, en fait, ceux qui ne savent pas, John Eaves, qui est un des concepteurs qui travaille sur présentement sur Star Trek Discovery, en fait, est un senior de Star Trek. Il a travaillé au travers des films et des séries. Il a d'ailleurs, c'est lui qui a désigné l'USS Enterprise E pour First Contact. Et il travaille présentement chez Star Trek à CBS. Donc, ce que ça veut dire, donc, je sais, j'ai parlé avec nos experts en vaisseau, Trek Yards, Samuel Calkins, et il, ce qu'il m'a dit est très intéressant dans le sens que, au niveau du production, du design, il demandait d'avoir des gens qui ne s'y connaissaient pas trop en Star Trek. Il ne voulait pas il voulait donner une nouvelle vibe, mais cependant, ils ont quand même engagé John Eaves, qui a travaillé quand même une bonne vingtaine d'années avec Star Trek. Donc, malgré le fait que les artistes, au niveau du design de vaisseau, du 3D, ne soient pas des experts en Star Trek, on sait qu'il y a quand même des gens qui travaillent fort là-dessus, qui avec des gens qui ont l'expérience et les connaissances pour garder l'esprit Star Trek. Et en fait, si on regarde ça, vous pouvez regarder, vous ferez une petite recherche pour USS Mawson, M-A-W-S-O-N, NCC-749-18. C'est un vaisseau que John Eaves a désigné pour un fan club australien qui ressemble très étrangement au vaisseau qu'on voit sur l'écran de production. Donc, c'est pas difficile à croire que John a simplement regardé dans ses archives et fait « ben, je vais prendre ça puis je vais l'adapter pour les années 2250 ». Donc, j'ai hâte de voir ce vaisseau-là texturé et de savoir son nom et son origine. Juste avoir la soucoupe, on voit définitivement une influence Star Trek Enterprise. Donc, on voit même en avant de la soucoupe, là, il y a deux petites antennes là, juste en avant de la soucoupe. Ce serait la soucoupe déflecteur, encore là, comme sur le Enterprise. Donc, le USS Columbia, une X-02, avait deux petites antennes au lieu de juste une dans sa soucoupe de déflecteur. Donc, quand même assez intéressant. Donc, si on continue, on voit des plans pour... En fait, c'est très difficile de savoir c'est quoi, mais en fait, si on regarde, c'est une forme qui est ronde. Et personnellement, ça me fait vraiment penser à... Si on regarde la soucoupe du USS Discovery, ça a quand même la même forme parce que l'intérieur de la soucoupe du USS Discovery a une espèce de boule qui est entourée d'un espèce de grand cercle. Ça ressemble vraiment à ce qui est sur les plans. Donc, moi, c'est ma théorie par rapport à ça. Et ensuite, on voit justement, je crois que ça, c'est l'intérieur. Ensuite, on voit une espèce d'espace avec des... je ne sais pas, c'est un corridor. En tout cas, on voit des espèces d'escaliers très angulaires entourés. Honnêtement, ça ressemble à ce qu'on a vu au début, mais vu de l'intérieur, ça ne ressemble pas vraiment à quelque chose de fédéré, peut-être plus quelque chose de Klingon. Encore là, c'est très difficile à dire. Mais moi, honnêtement, ça fait quand même assez Klingon pour moi. Très angulaire, même un petit peu de rouge. Je ne sais pas si le rouge c'est là pour rester ou pas, mais pour moi, honnêtement, ça a vraiment un petit air de Klingon pour moi. Et on voit une espèce de lumière sur la prochaine séquence. On voit une espèce de lumière tournée. J'ai l'impression qu'en fait, que ça, c'est l'extérieur. Mais en fait, j'ai l'impression que ce qui se passe vraiment, c'est à l'intérieur. Ce serait peut-être le warp drive du Discovery ou d'un autre vaisseau. Est-ce que ça pourrait... la lumière qui tourne pourrait justement être le moteur matière-antimatière. C'est mon opinion là-dessus. Outre cela, et ensuite, on finit sur une prise sur la chaise du capitaine. Donc, on voit ici, la chaise est très large. En fait, fait penser vraiment justement à la chaise un peu comme dans, je dirais, dans les films de Star Trek ou même dans la série originale où la chaise est très large. Si on regarde la chaise de Kirk, elle est très large. Donc, ça respecte ça. Encore là, très angulaire. On peut croire qu'il y aurait des panneaux de commande sur chaque bras. Donc, mais tu vois, on ne voit pas de bouton, là, justement, comme la chaise de Kirk originale. Et ensuite, on finit sur le logo de Star Trek Discovery avec la moitié, une par-dessus l'autre. Donc, qu'est-ce que je pense de tout ça? Personnellement, je crois... Brian Fuller a dit qu'il n'allait pas se gêner pour revoir le look de Star Trek pour le remettre un peu au goût du jour. Personnellement, moi, ça ne m'offense pas du tout. Je crois que, honnêtement, ceux qui s'attendaient à avoir une série avec les décors en carton des années 60, oui, ils vont être déçus, mais en même temps, si CBS voulait quelque chose, honnêtement, quelque chose qui se vende plus qu'à une sélection très particulière de fans de Star Trek, outre cela, une série avec les décors originaux, ça ne va pas rejoindre énormément de gens. Je peux les comprendre. Honnêtement, la décision... Bon, plusieurs gens vont se demander pourquoi ne pas avoir produit ça, pourquoi ne pas faire quelque chose qui est après Star Trek Voyager. Moi, mon avis là-dessus encore, j'ai vraiment l'impression que dans l'après Voyager, ils se sont comme un peu écrits dans un coin. Dans le sens que, juste avec le fait que Voyager revient avec des torpilles transphasiques et une armure quasi invincible au Borg, et ça, c'est de la technologie qui venait juste de quoi? 30, 40 ans dans le futur. Je pense que avec le temps, Star Trek a... Et c'est trop attaché à la technologie. Et ça devient... Si on peut s'imaginer qu'après 40 ans, ils ont une armure qui est invincible au Borg... qu'est-ce que c'est, genre, 50, 60, 100 ans plus tard? Oui, il y a des histoires où, ce que, mettons, des possibilités où, ce que, mettons, la Fédération serait désunie, puis il faudrait qu'un équipage la réunisse, mais je pense pas que c'est le genre d'histoire qu'on a de besoin de nos jours. On a besoin d'histoires qui rassemble, qui véhicule des messages d'espoir. On se mentira pas avec ce qui se passe présentement aux États-Unis. Ils ont besoin d'une série qui est positive et qui passe un message d'espoir et non pas un message de « ça va mal, et il faut... » Donc, je pense qu'honnêtement, l'époque, 10 ans avant Kirk, on parle de 2255, c'est un an techniquement après... The Cage. C'est une époque où la Fédération est en pleine expansion. Il y a les Klingons. On sait que l'histoire va se passer. Ils vont avoir une grosse histoire avec les Klingons, mais il y a beaucoup de découvertes à faire. Là, ils seront plus gênés par. Bon, Star Trek Enterprise est un peu maladroit, mais il y avait des. Leur erreur a été de ne pas vouloir. De ne pas vouloir faire de clin d'œil ou de faire des références aux séries précédentes. En fait, on dit, ils ont compris ça à partir de la quatrième saison. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre ben, on est dans l'univers de Star Trek, on va utiliser les éléments de Star Trek pour faire un show de Star Trek. Maintenant, on va considérer les gens qui sont en train d'écrire la série. Nick Meyer, principalement, c'est le nom que je retiens le plus. C'est quand même celui qui a littéralement sauvé Star Trek en réalisant Star Trek The Wrath of Khan. et par la suite Star Trek 4 et Star Trek 6. Et on a aussi, bon, je me rappelle plus son nom, mais je sais qu'elle a écrit de nombreux romans de Star Trek Voyager. Donc, les gens qui sont dans la salle des écrivains s'y connaissent extrêmement bien en Star Trek. Ils ont mon entière confiance. S'ils ont choisi cette époque-là, il y a une bonne raison. Et ça, on va le savoir quand la série va être diffusée. Donc, écoutez, c'est la fin de ma petite analyse pour Star Trek Discovery. Du petit trailer. Je vous invite à aller le voir. Pour nos amis en Europe, je crois que ça va être disponible probablement sur un channel YouTube de Netflix. Au Canada, sur le channel YouTube de Space Channel, il va être disponible. Et je vous invite aussi sur le site de TrekCore. Ils ont ils ont eu la gentillesse de faire des captures d'écran pour pouvoir analyser avec grande patience toutes ces belles images. Et sur ce, je vais souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit, peu importe où vous vous trouvez. Et on se revoit la semaine prochaine.